السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc on s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On s'est arrêté à le rôle qu'ont joué les femmes dans l'armée des musulmans. Donc on a dit qu'il y avait des femmes qui ont rejoint l'armée de Uhud au moment où les compagnons qui ont fui vers Médine sont arrivés avec l'information qui était en fait qu'une rumeur qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, et aussi l'information qui pour le coup était véridique et réelle, que c'était la débandade dans l'armée des musulmans et que les musulmans étaient en pleine défaite. Et donc un certain groupe de femmes, en particulier qui étaient conduites par Umm Ayman radiallahu anha, sont parties sur le champ pour rejoindre le champ de bataille et apporter de l'aide comme elles peuvent. On a vu qu'il y avait des femmes qui avaient accompagné l'armée dès le début, parce qu'il y avait toujours un groupe de femmes qui étaient là pour abreuver s'ils avaient besoin d'être abreuvés pendant la bataille et pour soigner également les blessés. Tout comme on a vu qu'il y a des femmes qui ont rejoint Uhud après que l'armée soit arrivée déjà à Uhud, comme Nusayba bint Ka'b radiallahu anha. Elle arrivait au petit matin au moment où les musulmans étaient encore en train de gagner la bataille. Elle explique elle-même qu'elle est arrivée avant le début de la défaite. Ensuite, on s'est attaché à voir aussi deux cas avant de parler de la fin de la bataille de Uhud. Le cas de Utba ibn Abi Waqqas, qui est le frère du compagnon Saad ibn Abi Waqqas. Et selon des versions qui sont faibles, Utba ibn Abi Waqqas a fait partie de ceux qui ont blessé directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Utba ibn Abi Waqqas aurait été tué dans la bataille de Uhud par le compagnon Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Ensuite, on a vu également le cas de Al-Harith ibn Suwayd ibn Samit. On a dit que Al-Harith ibn Suwayd ibn Samit, il était connu pour être un hypocrite. Et donc il est parti à la bataille de Uhud, mais il avait derrière dans sa tête un projet. C'est qu'il avait une ancienne dette qu'il voulait régler, une dette qui date de la Jahiliyyah. On a expliqué la semaine dernière que la tribu des Aous et des Khazraj était en pleine guerre avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une guerre qui avait duré depuis des décennies. Et la dernière grande bataille, le dernier grand événement entre eux, c'était Yawm Bu'ath, le jour de Bu'ath, la guerre de Bu'ath. Yawm Bu'ath. Et il faut savoir que Al-Harith ibn Suwayd ibn Samit, c'est en réalité le fils de Suwayd ibn Samit. C'est le fils de Suwayd ibn Samit. Suwayd ibn Samit, c'était un chef dans la tribu des Khazraj à Médine. Il était parti avec une délégation à la Mecque
à un moment où l'islam n'est pas encore arrivé à Médine. Il est parti à la Mecque avec une délégation pour demander aux Quraysh de l'aide contre leur tribu adverse. Et les Quraysh leur ont dit, on n'est pas contre vous, mais on ne peut pas officiellement s'allier avec vous et être contre eux non plus. On veut rester bien avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que le Médina, c'est à côté de la route commerciale qu'empruntent les Quraysh. Et pour eux, le Médina doit rester dans son ensemble, allié à eux. Ils ne veulent pas de problème avec aucune des tribus de Médina, parce qu'ils ont peur que si la tribu contre laquelle ils vont s'allier, elle prend le dessus sur l'autre, ben ça va être dangereux pour leur route commerciale. Donc ils leur disent, nous on ne peut pas. Désolé. Mais on n'est pas contre vous, on est bien avec vous. Mais de là à s'allier avec vous pour faire la guerre contre les autres, on ne peut pas. Et à ce moment-là, le professeur Anselme avait profité de cette situation pour faire quoi ? Pour aller faire da'wa. Et pour les appeler à l'islam. Et il avait appelé cet homme en particulier, Souhaïd ibn Samit, à l'islam. Souhaïd ibn Samit, il lui a dit, moi j'ai meilleur que tes paroles. J'ai mieux que tes paroles. Indi majallat al-Uqman. J'ai entre guillemets, le majalla, c'est la revue de l'Uqman. Mais à l'époque, les revues, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on utilise le mot majalla pour parler des revues, hein, des brochures. Donc c'était une façon de dire la compilation. Même si elle était juste mémorisée, elle n'était pas écrite, j'ai avec moi, c'est-à-dire je mémorise, la compilation des sagesses de l'Uqman. Le professeur Asmi a dit, Asmir niya, fais-les-moi écouter. Et Souhaïd ibn Samit, il va lui réciter quelques rimes parmi ce qu'on attribuerait à l'Uqman parmi les sagesses. Et le professeur Asmi va lui dire, inna hadha al-qawl la hasan. Ces paroles, elles sont bonnes. Mais moi, j'ai meilleur que ça. J'ai les paroles qui viennent de celui qui a créé l'Uqman et qui a créé tous les hommes. Al-Qur'an. Alors, Souhaïd ibn Samit va dire, alors fais-moi écouter. Et va lui faire écouter. Et là, Souhaïd ibn Samit va confirmer, va dire, en effet, tes paroles, elles sont meilleures. Et on rapporte que, il n'a pas clairement dit qu'il était musulman, mais en tout cas, depuis cet événement-là, quand il retourne à Médine, les gens de Médine par la suite vont témoigner et dire que, à partir de ce moment-là, il ne participera plus au rite des idolâtres. Et il y a un doute chez les historiens, est-ce qu'il est mort musulman ou pas ? Non. Dans cette délégation, il y avait aussi Iyas ibn Mu'adh. On avait parlé de lui, si vous vous rappelez. Iyas ibn Mu'adh, c'était un jeune enfant. Et Iyas ibn Mu'adh, alors qu'il est dans la délégation, il est parmi les adultes, alors qu'il était un jeune enfant, il va leur dire, quand le professeur Smith va les appeler, va leur faire da'wah, il va leur dire, mais il n'appelle qu'au biais cet homme. Pourquoi vous refusez de l'écouter, de faire ce qu'il vous demande ? Et sur lui aussi, ah, il y avait des doutes. S'était-il converti à l'islam ou pas ? Non. Ala kulli hal, pourquoi on a ouvert cette parenthèse ? C'est pour se rappeler de qui on a parlé la semaine dernière. On a parlé de l'Harith ibn Souhaïd ibn Samit. C'est le fils de ce chef qui prétendait avoir la compilation des sagesses de l'Uqman et que lorsqu'il les a récitées au professeur Smith, le professeur Smith lui a dit ce sont des bonnes paroles, mais il a finalement admis que les paroles que le professeur Smith récitait, c'est-à-dire le Coran, étaient bien meilleures que celles qu'il avait lui. Et il a changé, en tout cas, son mode de vie. On n'est pas sûr qu'il était devenu musulman, mais en tout cas, il a changé son mode de vie à partir de ce moment-là. Et fil haqiqa, si on s'attache à la version qui dit qu'il n'est pas devenu musulman, ça prouve quoi ? Ça prouve que le musulman, il doit être capable au moins d'apporter ça à son prochain. Parce que l'islam, il apporte deux choses. Il apporte une foi à Afwan et une voie. Une voie, c'est-à-dire une voie, un chemin. Il apporte une foi et une voie. Voie VOIE, le chemin. Pas la voie quand tu parles, VOX. Ou la voix quand tu votes, c'est VOX aussi. Mais quand tu votes, ça va nous ramener les problèmes. Donc non, ça, on ne va pas parler de ça. L'islam, il rapporte à la fois une foi et une voix. Dans le meilleur des cas, il doit rapporter les deux. C'est-à-dire que tu te soumets à la foi et tu te soumets à la voix. Et la voix, c'est quoi? C'est un mode de vie, c'est un comportement. Ce sont des attitudes. Il y a beaucoup de musulmans qui ont la foi, mais qui n'ont pas la voix. Ils ont perdu la voix, pas à cause d'une angine, ils ont perdu la voix parce qu'ils ne font pas le bon comportement. Naam. Et il y a beaucoup de gens qui ont la voix, qui ont le comportement, mais ils n'ont pas la foi. À propos de ceux à propos de qui on a tendance à dire il lui manque que l'islam. Il n'y manque tout. Le véritable musulman, le bon musulman, c'est celui qui a les deux. Akmalun nasi imana, ahsanuhum khuluqa. Les plus parfaits dans la foi sont les meilleurs dans le comportement, comme l'a dit le professeur Asselin. Combien de fois dans le Coran, alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont la foi et accomplissent les bonnes œuvres. Ils sont accrochés tous les deux. Al-iman wa al-amalu salih. Mais en tous les cas, au minimum, si on n'arrive pas à convaincre sur la foi, l'islam, il doit au moins apporter ses bonnes idées et cette volonté de changer de vie. L'islam, il appelle les gens à arrêter ce qui est mauvais, à arrêter les addictions, à arrêter l'alcool, à arrêter l'infidélité, à arrêter l'adultère, la fornication, etc., etc. L'islam, il appelle combien? Et donc, si le musulman, dans son travail de da'wa, il n'arrive pas à convaincre pour la foi, il doit au moins réussir à convaincre pour le comportement. Mais souvent, les gens refusent d'admettre la foi parce qu'ils ont un problème. Ils ne veulent pas lâcher certaines habitudes qu'ils ont dans le comportement. Non. Ala kulli hal. Tout ça pour dire que ces versions, on a deux versions pour... Souhaïd ibn Samit, certaines qui nous disent qu'il s'est converti à l'islam, certaines qui nous disent qu'il a juste changé de mode de vie, mais il ne s'est pas officiellement converti à l'islam. En tous les cas, il a été tué par la suite, dans une histoire avec dans une guerre tribale, il a été tué. Et donc son fils, le Harith ibn Souhaïd ibn Samit, cherche à se venger. Ce qui est normal, ce qui est la norme à cette époque-là de la Jahiliya. Donc je précise, à cette époque-là de la Jahiliya. Parce que comme tu étais enregistrant, c'est jamais quelqu'un qui dit « Ah, il dit c'est normal de se venger. » Non. Lorsque l'islam va arriver et que les gens de Médine vont accepter de prêter serment d'allégeance au professeur Sémé et de faire table rase du passé, il y a une partie qui sont hypocrites. Parmi lesquelles, le fils de cet homme, Al-Harith ibn Souhaïd ibn Samit. Et qui lui, en réalité... En apparence, il a fait table rase du passé, mais il garde dans son cœur une rancune et une haine à l'égard de cet homme qui prétend, lui, il l'accuse d'avoir tué son père. Mais selon beaucoup d'historiens, ce n'est même pas lui qui aurait tué son père. C'est qui? C'est le compagnon, le Mujaddar ibn Ziyad. Et donc cet homme, Harith ibn Souhaïd ibn Samit, profite de la bataille de Uhud, il va dans la bataille de Uhud et il profite d'un moment, hein, où tout le monde est occupé à faire la guerre, pour venir tuer quelqu'un qui est dans son armée, puisqu'il est dans l'armée des musulmans, Al-Mujaddar ibn Ziyad, et ensuite il prend la fuite pour aller trouver refuge à la Mecque. C'est un acte de haute trahison. Naam. Et donc on a parlé de lui la semaine dernière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin de la bataille de Uhud. Donc il faut nous rappeler dans quelle situation on se trouve pour comprendre ce qui va s'enclencher à partir de maintenant. Donc je vous rappelle que lorsque les deux armées sont arrivées, celle des musulmans et celle des idolâtres, ils ont d'abord pris position. Le professeur Sam est arrivé en premier et il a pris position contre le flanc de la montagne de Uhud. C'est-à-dire que dans son dos, il y avait la montagne de Uhud et face à lui, à 5 km plus loin, il y avait la ville de Médine. Et il a laissé les idolâtres arriver. Et donc, d'une certaine manière, il s'est mis au milieu entre la montagne de Uhud et la ville de Médine. Et il a laissé les idolâtres arriver et se positionner entre la ville de Médine et l'armée des musulmans. Et pour les idolâtres, c'était un positionnement très stratégique. Parce qu'ils se sont dit, en arrivant, mais ils laissent la ville de Médine sans protection. La logique, ça aurait été quoi? Ça aurait été que le professeur Hassim sorte de Médine et il mette la ville de Médine derrière lui pour protéger la ville de Médine et combattre. En vérité, le professeur Hassim, en faisant ça, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a réfléchi comme ça? Parce que comme ils sont beaucoup moins nombreux, il y a un risque qu'ils perdent la bataille. Et s'ils perdent la bataille et que les musulmans sont tués, par exemple, qu'est-ce qu'il restera plus qu'à faire pour l'armée des idolâtres? Il ne restera plus qu'à foncer sur la ville de Médine et aller tuer les civils. Donc c'est pour ça que le professeur Hassim n'a pas pris ce positionnement. Le professeur Hassim a pris le positionnement qui paraît comme ça mauvais pour lui, mais en réalité, il a réfléchi à la conséquence dans le cas où ce sont les idolâtres qui gagnent la bataille. Et c'est ce qui va se passer. Et on va voir que ce positionnement, il va être d'une importance capitale. C'est que le professeur Hassim prend la montagne de Uhud derrière lui pour que dans le cas Afwan où ils perdent la bataille, et bien ceux qui arrivent à fuir ou à survivre, ils puissent se réfugier au-dessus de la montagne de Uhud pour se protéger et protéger la ville de Médine. De telle sorte à ce que les idolâtres, même s'ils gagnent la bataille, ils ne pourront pas aller sur la ville de Médine tant qu'il y a un contingent de l'armée sur la montagne de Uhud. Parce que ce sera dangereux pour eux. Et c'est justement ce qui va se passer. Donc, le professeur Hassim a pris ce positionnement. Ensuite, il y a eu la série des duels. Ensuite, il y a eu la bataille générale. Ensuite, il y a eu l'abandon des archers du mont des archers. Et la cavalerie qui vient prendre en étau les musulmans. Il y a eu la confusion dans l'armée des musulmans entre la rumeur qui disait que le professeur Hassim était mort, entre le fait qu'il ne voit plus le professeur Hassim où il est, il ne voit plus l'étendard des musulmans, il voit l'étendard des idolâtres flotter alors qu'il était par terre et que personne n'osait le prendre. Bref, il ne voit plus les archers sur le mont des archers, il voit la cavalerie arriver. Donc il y a une confusion qui fait que il y a plusieurs positionnements ou il y a plusieurs réactions dans l'armée des musulmans. Il y a ceux qui vont fuir jusqu'à Médine. Il y a ceux qui vont aller se protéger sur la montagne de Uhud. Il y a ceux qui vont rester sur le champ de bataille mais qui vont lever les mains comme quoi ils cessent le combat, et ils se rendent. Il y a ceux qui vont combattre jusqu'au bout en pensant que le professeur Salim est mort. On avait donné l'exemple de Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, qui disait quel goût aura la vie après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti s'engouffrer dans les idolâtres et il a combattu jusqu'à ce qu'il a été tué. Non. Et on n'a pas cité que Anas ibn Nadr, on a cité d'autres. Et il y a les compagnons qui sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des compagnons qui ont comme seul objectif trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se passe ce qui se passe, ils sont loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent le trouver pour le protéger. Comme Abu Ubaid ibn Jarrah, on l'avait cité, qui est venu de loin, quand il y a eu la débandade, il cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il le trouve, et il le trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé, et c'est lui qui va défaire les points de son casque qui ont transpercé ses joues. Avec ses dents à un tel point qu'il va perdre, selon certaines versions, même si elles sont faibles, deux de ses dents, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Donc on a tout ça. Donc ça nous donne une idée d'ensemble. L'idée d'ensemble, c'est quoi? C'est que les musulmans sont éparpillés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le voit ça, qu'il a été blessé, il est tombé dans le trou. Au moment où il reprend un petit peu ses esprits, qu'il y a des compagnons autour de lui qui le défendent, il voit que C'est la catastrophe d'une certaine manière. Mais il peut y avoir pire que ça. Le pire que ça, ce serait que les idolâtres arrivent à tuer tout le monde ou à emprisonner tout le monde et qu'ensuite, la ville de Médine est à leur merci. Donc l'urgence pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand stratège, ce n'est plus de gagner la bataille. Essayer de gagner la bataille dans cette situation, c'est vouloir aller au suicide. Et le professeur Sam réfléchit à la situation la moins pire, entre guillemets, même si on dit qu'en français, ça ne se dit pas le moins pire. Mais Marlich, vous m'avez compris. La situation la moins pire pour les musulmans à ce moment-là, c'est de réussir à regrouper et de rassembler ceux qu'on arrive à rassembler et de les mettre dans un endroit où ils sont à l'abri, qu'on ne peut pas les attraper à cet endroit-là, et surtout qu'à partir de cet endroit-là, ils peuvent encore être une menace contre les idolâtres pour les dissuader de penser à aller attaquer la ville de Médine. Le souci, c'est que le professeur Sallam s'est un peu éloigné à ce moment-là de la montagne de Uhud. Parce qu'au début, ils étaient contre la montagne de Uhud, mais comme ils gagnaient la bataille, les musulmans, ils étaient partis loin jusqu'au camp des idolâtres. Le professeur Sallam avait commencé à avancer avec un groupe de compagnons. Et donc, ils sont à quelques dizaines de mètres de la montagne de Uhud. Et ils ont été pris en étau. Comment faire pour réussir à rassembler le plus de musulmans autour de lui? Ça, c'est déjà une chose difficile. Et la deuxième chose difficile est comment faire pour réussir à faire frayer un chemin à tous ces musulmans et de les emmener, de les attirer jusque vers la montagne de Uhud. Ah. On n'a pas de texte authentique qui nous dit voilà exactement en détail comment le prophète Hassan s'y est pris. Mais on a des déductions et des analyses qui sont faites par des historiens. Et un de ceux qui s'attache le plus à essayer de trouver une bonne chronologie en fonction des éléments qu'il a, c'est le Mubarak Fouri dans Rahiq al-Makhtoum, hein, qui est traduit par le Nectar Cacheté ou le Joyau Ultime en fonction des traductions. Et lui, il apporte quatre étapes à cet endroit-là, à ce moment-là. Il dit premièrement, lorsque les archers abandonnent, etc., première chose que le professeur Hassan va faire, c'est qu'il va appeler. Et c'est pour ça qu'il va être blessé, selon lui. C'est une des raisons qui fait qu'il va être blessé. C'est parce que, justement, il va appeler les musulmans à se rassembler autour de lui. Et donc, les idolâtres vont savoir où il est, puisqu'il va appeler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un certain nombre de musulmans vont se rassembler autour de lui, mais en même temps, beaucoup d'idolâtres vont venir et c'est là qu'il va être blessé, etc. Troisièmement, il va y avoir l'appel du compagnon Ka'b ibn Malik, sur lequel je vais revenir avec les versions qu'on va citer tout à l'heure. C'est que le compagnon Ka'b ibn Malik, il va être celui aussi qui, en troisième étape selon Mubarak Fouri, il va appeler lui aussi à se rassembler autour du professeur Hassan. Et ça va attirer les derniers qui vont réussir à se frayer un chemin jusque-là. Et ensuite, le professeur Sallam va donner l'ordre d'aller doucement vers la montagne de Uhud tout en se défendant. Donc, il faut vous imaginer comment ça va être très difficile pour eux d'arriver jusqu'à la montagne de Uhud, jusqu'à ce qu'on appelle Shi'bul Jirar, le sentier ou la gorge de Jirar. Il y a une sorte de mini-gorge, hein, ou une sorte de mini-sentier qui est très exigu, très escarpé. Et donc le professeur Sallam choisit cet endroit stratégique pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Mais ça reste une déduction de Mubarak Fouri qui n'a aucun texte qui vient le confirmer de manière essentielle. Même s'il se base sur certains textes, mais il nous manque la chronologie dans ces textes. Et en plus de la chronologie, il nous manque l'authenticité. Quels sont ces textes? Premièrement, c'est le texte de Ibn Ishaq. Ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit maintenant, il faut s'en rappeler du texte. Non. Le texte nous dit كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وبعد قول الناس قتل رسول الله كما حدثني ابن شهاب الزهري كعب ابن مالك أخو بني سلمة. Donc Ibn Ishaq, il nous dit, le premier à avoir reconnu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste après la défaite des musulmans à Uhud, et juste après que les gens ont fait courir le bruit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, le premier à reconnaître et donc à apporter l'information, mais non, il n'est pas mort, je l'ai vu, c'est Ka'b ibn Malik. Attention, nous on a bien dit depuis des semaines qu'il y avait des compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient là en train de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort. On parle le premier à savoir, à reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir donc qu'il n'est pas mort, bah, parmi tous les compagnons qui sont éloignés et qui n'ont pas un accès visuel sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier c'est qui? C'est Ka'b ibn Malik. Ibn Ishaq, il dit le premier, c'est Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, c'est pas n'importe quel compagnon. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, c'est un des poètes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les poètes, il y a Hassan ibn Thabit, il y a Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, il fait partie des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, huwa min shu'ara ir rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il fera partie de l'mukhallafoun dans l'expédition de Tabouk. Mukhallafoun, ce sont ceux qui ont refusé de prendre part à la bataille. L'expédition de Tabouk, c'est une des rares expéditions, on va la verra en détail, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tout le monde doit participer à cette bataille. Nous n'avons pas le choix. Sauf ceux qui ont une raison valable. Ceux qui n'ont pas la capacité physique, ceux qui n'ont pas, etc. Bref, qui ont une bonne raison. Ou ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner l'ordre de rester garder la ville de Médine. Et il y a, parmi le mukhallafoun, parmi ceux qui ne vont, qui vont pas participer à la bataille de Tabouk, il y a ceux qui ont une bonne raison. Khlas. Ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander expressément de rester et de garder la ville de Médine. Khlas. Et il y a ceux qui vont prendre eux-mêmes la décision de ne pas participer. Et chez ceux-là, il y en a trois sortes. Il y a les hypocrites, ceux qui refusent d'y participer parce qu'en réalité ils sont hypocrites, donc ils trouvent des excuses. Ils construisent des alibis pour ne pas participer à cette expédition. Il y a ceux qui ont une raison. Il s'est passé quelque chose dans leur vie à ce moment-là qui a fait que ils ont été retardés. En tout cas, il y a une raison. Et il y a ceux qui ne sont pas hypocrites et qui n'ont aucune raison. Les hypocrites, ils n'ont aucune raison. Mais il y a des compagnons qui ne sont pas hypocrites et qui pourtant, eux aussi, n'ont aucune raison. Alors, il y a, dans tout ça, il y a ceux qu'on appelle Bakkaoun. Ils sont sabah, ils sont sept. Les Bakkaoun, les pleureurs. C'est qui? C'est ceux qui étaient là au moment du rendez-vous pour participer à la bataille de Tabouk. Mais le prophète Hassan leur a dit, je n'ai plus aucune monture pour vous. Parce que déjà, chaque monture, elle était partagée entre trois personnes. Ils n'avaient pas assez. Et le prophète Hassan organise l'armée comme il veut, etc., comme il peut, et eux, ils arrivent. Le prophète Hassan leur dit, moi, j'ai rien pour vous. C'est pas grave, retournez à Médine. Et ils implorent le prophète Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai plus aucune solution pour vous. Restez à Médine. Et il retourne en pleurant. Et Allah Azza wa Jalla cite dans le Coran, et c'est pour ça qu'on les appelle al-bakkaoun, les pleureurs. Ils étaient sincères. Ils voulaient être là, mais ils n'ont pas pu. Et il y a ceux qu'on appelle al-mukhallafoun. Ceux qui n'ont pas été, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de raison. Il y a les hypocrites, donc c'est khlas. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir de Tabouk, parce que les hypocrites sont persuadés que c'est fini. C'était une expédition contre qui? Contre l'Empire romain. Parce que l'Empire romain était en train de préparer une armée contre les musulmans. Et donc évidemment, l'armée des musulmans, quand on fait notre hasab à nous, nos comptes de la vie d'ici-bas, ils sont foutus. Sauf que les plans d'Allah Azza wa Jal, ils sont auprès d'Allah, pas auprès de l'être humain. Et quand l'armée des Romains va entendre qu'il y a une expédition qui est sortie de Médine, ils vont dire que ce n'est pas possible. D'abord, ils ont su alors qu'on voulait faire une attaque surprise, ils ont su qu'on était en train de préparer une armée. Et eux, ils sont en train de sortir une armée et de venir vers nous. Alors que nous, on est l'Empire romain quand même. Mais s'ils osent faire ça, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup. Ah, il ne faut pas prendre de risques. Et donc, ils vont avoir peur. Et ça, c'est dans plusieurs versions, dans plusieurs hadiths, le professeur Hassan dit « وَنُصِرْتُ بِالْرُعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ » Parmi les choses que Allah Azzawajal a donné au professeur Hassan, mais qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui, c'est qu'il lui a donné la capacité de triompher sur ses adversaires uniquement par la terreur, par la peur. Sans qu'il y ait de bataille, ils ont peur, donc ils partent. Comme on raconte l'histoire de l'armée qui était partie pour libérer l'Égypte, et elle était conduite par le compagnon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et on raconte que Amr ibn al-As, il gagnait les batailles. Et vers le sud de l'Égypte, entre l'Égypte et le Soudan, dans les tribus de Nouba, il commençait à perdre certaines batailles. Et Amr ibn al-As, il a demandé à son armée de faire une pause. Et il leur a dit, je vous demande de réfléchir tous avec moi. On gagne les batailles et là on commence à les perdre. Et c'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose. Ils ont dit, ouais, peut-être que le plan qu'on a fait, la stratégie qu'on a prise. Ils ont dit, non, pas militairement. Militairement, tout est bon. Faites-moi confiance. Mais il doit y avoir quelque chose. Peut-être une sunna qu'on fait pas. Il nous manque quelque chose. On a dit tout à l'heure, la foi et la voix. Il nous manque quelque chose. Mais quel rapport avec le... Faites-moi confiance, réfléchissez. El-Mohim, ils ont réfléchi. Et selon cette histoire, qu'on va utiliser au conditionnel, on lui aurait dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le siwak. Parce qu'on est loin de chez nous, on n'a plus les branches. On n'a pas les mêmes arbres avec lesquels on produit le siwak. Amr ibn al-As aurait dit, oui, c'est vrai. Donc ils sont montés sur les arbres, ils ont coupé des branches, ils ont fait des siwak. Pendant ce temps-là, en face, il y a une armée qui attend. Ils attendent... Qu'est-ce qu'ils font? Et donc l'armée d'en face, le chef de l'armée d'en face, il dit, c'est pas normal, on était censé combattre. Allez voir ce qu'ils font. Il envoie des éclaireurs. Les éclaireurs, ils reviennent, ils disent, ils sont terrifiés, terrorisés. Ils disent, on a vu des sauvages. C'est-à-dire, ils sont en train de se curer les dents. C'est des cannibales, ils veulent nous manger en fait. Non. Et ils vont s'enfuir sans livrer bataille, selon cette histoire. Ça fait partie de Nusirtu bil-Ru'bi Masirata Shahr. Il m'a été donné de gagner juste par la peur, par la terreur, d'une distance d'un mois. Ça veut dire quoi d'une distance d'un mois? Ça veut dire que les musulmans, ils ont encore un mois de voyage à faire pour arriver auprès de leurs ennemis, pour combattre. Et finalement, ces ennemis-là, un mois avant qu'ils n'arrivent, un mois de distance, il jette les armes par terreur, par crainte. Non. Donc je reviens à l'al-mukhallafoun. Quand le professeur se me revient, ben les hypocrites, minces, nous on pensait qu'il allait perdre. Donc ils viennent, crois-moi, au messager d'Allah, moi j'aurais voulu venir, mais c'est pas que je voulais pas, mais... Il s'est passé ceci chez moi. Oui, chacun trouve les excuses. Le professeur Salim, chacun qui lui ramène son excuse, tu es pardonné. C'est pour cette raison que tu es pardonné. Et toi, c'est pour quelle raison? Tu t'es disputé avec ta femme. C'est ta femme qui ne voulait pas. Allez, tu es pardonné. Chacun, quelle excuse il prend? Non. Que les sœurs ne nous en veulent pas. Hein. C'est juste un exemple parmi d'autres. El Mohim, il y en a trois qui vont venir parmi lesquels Ka'b ibn Malik. Celui qu'on cite aujourd'hui pour avoir été le premier à reconnaître le professeur Hassan sur le champ de bataille de Uhud. Qui va venir et qui va dire, je n'ai pas participé. Le professeur Hassan va dire, pour quelle raison? J'ai pas de raison. Je voulais pas, c'est tout. Et les gens le regardent, tout le monde est choqué. Comment il ose? Il n'a pas participé, il ose dire comme ça, j'ai pas voulu. Mais c'est comme de la provocation. Et le professeur Hassan, donc il ne peut pas lui dire tu es pardonné. Il y en a à ce moment-là, mais c'est sûr, le professeur Hassan, il pardonne, il est pardonneur. Mais à ce moment-là, Il y a les gens qui regardent. Il y a les gens qui entendent. Et il doit laisser une empreinte. Le professeur Samuel dit, tu n'as aucune excuse, aucune raison. Non, aucune. Sur le côté. Il y en a trois comme ça, avec Ka'b ibn Malik, qui disent ne pas avoir de raison. Et qui ne sont pas hypocrites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va ordonner aux musulmans de ne plus leur adresser la parole. Et ça va durer jusqu'à 40 jours, selon certaines versions. Et à un moment, il va même leur ordonner de s'écarter de leurs femmes et qu'ils n'ont plus le droit de toucher leurs femmes. À un tel point que Ka'b ibn Malik va dire à son épouse, « Va chez ton père. » Pour respecter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Va chez ton père, sinon si on reste dans la même demeure, je n'ai pas la garantie que je vais réussir à respecter l'ordre qui m'a été donné par le sallallahu alayhi wa sallam. » Donc c'est mieux que tu sois loin et que je ne te vois pas, va chez ton père. Il renvoie sa femme chez son père. Ka'b ibn Malik, les deux autres, ils se cloîtrent chez eux. Parce que dès qu'ils sortent à l'extérieur, les gens détournent le regard et ils ne leur parlent pas. Ils ne répondent même pas à leur salam. Parce qu'ils ont reçu l'ordre du professeur Sim de ne pas leur parler. Et ils respectent l'ordre du professeur Sim. Il n'y a que Ka'b ibn Malik parmi les trois qui continue à faire sa vie comme si de rien n'était. Il va à la mosquée, il prie, etc. Même si tout le monde refuse de lui adresser la parole. Et finalement, Allah Azza wa Jalla va révéler des versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit qu'il leur pardonne à eux. Il leur pardonne pourquoi ? Parce qu'ils ont payé leur faute. Comment ils ont payé leur faute ? Par ce châtiment, par cette punition, en étant mis sous embargo, à l'écart, etc. Là, ils ont payé. Donc au final, c'est quoi le mieux ? D'avoir dit, je n'ai pas d'excuse. Donne-moi ma punition et qu'Allah me pardonne. Ou le mieux, c'est de venir et de choisir une excuse qui n'est pas vraie et qu'à la fin, il te reste toujours des comptes à rendre à Allah Azza wa Jal. Al-Muhim Ka'b ibn Malik, il nous dit, j'ai été le premier, ou en tout cas Ibn Ishaq dit qu'il a été le premier à reconnaître le professeur Hassan. Et donc, il est le premier à reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَبْشِرُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ. J'ai dit du plus fort de ma voix, ô vous les musulmans, je vous annonce la bonne nouvelle, voici le messager d'Allah. فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Un escoute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe avec sa main de me taire. Pourquoi il lui fait signe de se taire ? Pour pas que les idolâtres le reconnaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils l'attaquent. Non. Fa'ala kulli hal, selon cette version, la version elle continue en nous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc rassembler les musulmans autour de lui, et qu'il va tenter de se frayer un chemin vers Shi'arul Jirar, vers le sentier, la gorge escarpée de la montagne de l'Uhud, qu'on appelle la gorge de l'Jirar. Et qu'avec lui, il y a, on nous dit, wa ma'ahu Ali ibn Abi Talib. Il y a Ali ibn Abi Talib avec lui, à ce moment-là. Quand Ka'b ibn Malik arrive et qu'il le reconnaît, il y a avec lui Ali ibn Abi Talib. Il y a avec lui Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il y a avec lui Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il y a avec lui Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu. Il y a avec lui Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et il y a avec lui Al-Harith ibn al-Simma, radiyallahu anhu. Et le texte nous précise Firahti min al-Muslimin, avec un autre groupe de musulmans. Il y en a qui ne citent pas le texte, mais ils citent les plus importants, ce sont ceux qu'on vient de citer. Et ensuite, il se fraye un chemin jusque Sha'b al-Jirar, jusque le sentier, jusqu'à la gorge escarpée. Et il trouve refuge là-bas. Afouan. Mais cette version, elle est faible. Chaîne de narration, elle est faible. On a une deuxième version qui a été authentifiée par l'imam Tabarani, enfin qui a été rapportée par l'imam Tabarani plutôt, et qui a été jugé authentique par l'Haythami. Dans cette version, on nous dit que c'est Ka'b ibn Malik qui parle et qui explique « Kuntu lamma kana yawm Uhud, Quand on était à la bataille de Uhud et que les gens sont partis vers le sentier, j'ai été le premier. J'ai été le premier à reconnaître le professeur. D'ailleurs, dans la version précédente, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il nous dit, il nous donne un détail. Ka'b ibn Malik, il nous dit Araftu aynayhi tazharan. Comment je l'ai reconnu? C'est que j'ai vu ses deux yeux pleins de lumière. J'ai vu ses deux yeux s'allumer. C'est-à-dire qu'au milieu des silhouettes, de toutes les personnes qu'il y a, tout le monde dans son armure, son casque, etc. Il dit, c'est surtout ce que j'ai reconnu, c'est ses beaux yeux. Ses yeux pleins de lumière. Ra'aytu, araftu, aynayhi tazharan. Et donc, il dit... J'ai été le premier à reconnaître le professeur sallam. Faqultu hadha rasulullah, et j'ai dit voici le messager d'Allah. Fa ashara ilayya bi yadihi an uskut. Et il m'a fait signe de sa main pour me dire tais-toi. Et il dit falamma arafa al-muslimuna rasulullah, lorsque les musulmans ont reconnu le professeur sallam grâce à ça, grâce au fait que j'ai dit c'est lui. Ils sont venus pour le prendre, pour le protéger. Et lui, il les a pris vers le sentier, vers la gorge. Ils se sont frayés un chemin jusque la gorge. Il dit au moment où j'ai dit « Le voici, voici le messager d'Allah », il dit « Il m'a donné son matériel de combat, donc son armure, son casque, son bouclier, son épée, etc. » Et il a dit « Mets-les. » Et il dit « Moi, je lui ai donné les miens et il les a mis. » Il est pour tromper l'adversaire. Parce qu'à ce moment-là, il y a un problème. C'est que les idolâtres veulent à tout prix tuer le professeur sallam. Donc tant que le professeur sallam est reconnaissable, son projet de sauver les musulmans et de les emmener vers le sentier, il est extrêmement compliqué. Mais s'il arrive à brouiller les pistes et à faire en sorte qu'il n'arrive pas à le reconnaître, alors les idolâtres, au lieu de se concentrer sur sa personne, ils vont être éparpillés et donc il va pouvoir se faciliter la tâche pour prendre les musulmans vers le sentier. Le Sha'b al-Jirar. Et donc, c'est ce qui va se passer. Sauf que Ka'b ibn Malik, il explique que quand il a mis l'armure du prophète sallam, il dit Fadoribto. Et j'ai été frappé à ce moment-là plus. Wajurihtu 20 jiraha, ou qala bid'atan wa 20 jiraha. Et j'ai été blessé d'une vingtaine de coups, d'une vingtaine de blessures. Et selon d'autres versions, d'un peu plus d'une vingtaine. Non. Il dit Kullu man yadribuni, yahsibuni Rasulallah. Tous ceux qui me frappent, ils pensaient que j'étais le messager d'Allah. Il le dit avec fierté. Il ne le dit pas pour se plaindre. Il le dit avec fierté. On m'a mis moi à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pensé que moi j'étais le prophète. C'est avec fierté qu'il le dit. Et le courage de ces hommes, yani. Parce qu'il aurait pu être, il aurait pu mourir dans cette situation. Et comme l'a fait avant lui... Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il s'est mis dans son lit pour la hijra, pour que le prophète sallam puisse gagner du temps et faire son immigration il va être pourchassé à travers le désert. Ali l'a pris, il a mis ses habits et il s'est mis dans son lit. Donc Ka'b ibn Malik, il raconte ça. Et cette version, elle a été authentifiée par le Hakim et Zahabi. Non. On nous dit dans une troisième et dernière version qu'on cite, le professeur Simon talqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a chiab. Le professeur Simon est parti vers le sentier. Wa kana yad'u an-nas. Et il appelait les gens. C'est peut-être sur cette version que c'est basé le Mubarak Fouri pour dire le professeur Simon a d'abord appelé les gens. Et c'est ensuite que Ka'b ibn Malik l'a reconnu. Wa kana yad'u an-nas. Il appelait les gens, et il allait vers le sentier et il appelait les gens de se réunir jusqu'à ce qu'il est arrivé aux gens du rocher. Les gens du rocher, c'est qui? C'est les gens qui sont sur la montagne d'Uhud. Qui est-ce qui est sur la montagne d'Uhud? C'est les compagnons qui ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort et qui se sont mis à l'abri sur la montagne d'Uhud parce que la bataille était perdue pour eux et en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive aux gens qui sont sur les premiers rochers. Et quand il arrive là, il y a un homme qui le voit arriver. Il ne le reconnaît pas. Les gens, ils sont avec leur armure, etc. Il ne sait même pas si c'est un musulman ou un idolâtre. Donc on nous dit que cet homme, il prend une flèche et il la met sur son arc et il vise le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui tirer dessus. Parce qu'il pense, pour lui la bataille elle est perdue, pour lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc il pense que ça peut que être un de ses adversaires qui vient, maintenant qu'ils ont tué tous les musulmans sur le champ de bataille, qui viennent s'occuper d'eux. Et donc lui, il vient avec cette flèche, et il veut se défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ana Rasulullah, je suis le messager d'Allah ». Et là, on nous dit, cette version, elle nous dit « Fafariha al-muslimuna bidhalik ». Et les musulmans ont été réjouis d'entendre ça. Qui était sur la montagne? Parce qu'ils le pensaient mort. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se demander ce qu'allait devenir leur vie. Et là, à ce moment-là, hein, on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Ana Rasulullah ». Il leur annonce la bonne nouvelle. Il faut se mettre à la place de ces gens-là. C'est comme si la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était réellement arrivée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ressuscité pour eux. Pour eux, c'est exactement ça. En vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, il n'a pas ressuscité. Mais pour eux, c'est ça parce qu'ils ont cru en cette rumeur. Et donc, pour eux, c'est fini. Et ils ont le temps d'y réfléchir. Et finalement, ils entendent « Ana Rasulullah ». Et ils reconnaissent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que va être révélé le verset dans lequel le prophète sallam dit « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul » Muhammad n'est qu'un messager et avant lui, il y a bien des messagers qui ont pris fin. Il y en a qui sont morts. Allah Azza wa Jalla révèle à ce moment-là au prophète sallam qui transmet à ses compagnons « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul » Mohammed n'est qu'un messager parmi tant d'autres qui sont morts avant lui. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin. S'il meurt ou s'il est tué, est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez tout abandonner? D'une certaine manière, Allah Azza wa Jalla leur dit, la prochaine fois, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous entendez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort ou il est tué, c'est tout, vous abandonnez tout. S'il meurt ou s'il est tué, est-ce que vous allez tout abandonner? Vous allez fuir? Celui qui fuit, celui qui abandonne tout, il ne causera aucun tort à Allah. Sous-entendu, il se causera du tort à lui-même. Allah se suffit. Ça rajoute rien à Allah, ça n'enlève rien à Allah. Et ce verset, en réalité, les savants ils nous disent en vérité, cet événement il est arrivé à Uhud, cette rumeur de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset il est révélé pour préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quoi? À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on est à la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir 7 ans plus tard. 7 ans, ça peut être court, ça peut être long. 7 ans plus tard, il va mourir. Les savants nous disent, cet événement et ce verset, c'est le premier indice qui montre aux compagnons, attention, le prophète sallam va bientôt mourir. Et il y a d'autres indices comme ça qui vont se rajouter par la suite, mais les savants nous disent, ce verset, c'est le premier, qui vient dire, réveillez-vous. C'est une piqûre de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas là tout le temps. Et un de ceux qui a le mieux appris cette leçon, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Mais ça, on le verra quand on fera la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, si Allah azza wa jalla nous donne longue vie jusqu'à ce moment-là. Et on expliquera quelle va être la réaction d'Abu Bakr Siddiq à ce moment-là. Ala kulli hal, ces versions, elles nous indiquent quoi? Elles nous prouvent quoi? Elle nous prouve que le premier à avoir reconnu le professeur Hassan, c'est Ka'b ibn Malik, qu'à partir de ce moment-là, Ka'b ibn Malik va appeler, le professeur Hassan va lui dire de se taire, le professeur Hassan lui aussi va appeler, et petit à petit, ils vont arriver au sentier. Sauf qu'une de ces versions, elle nous dit « Hatta adrakahu Ubay ibn Khalaf ». Mais le prophète, à ce moment où il va arriver au sentier, il va être rattrapé par un homme qui va le reconnaître. Un idolâtre d'une hostilité acharnée à l'égard du prophète. C'est Ubay ibn Khalaf. Et il va reconnaître à ce moment-là, au moment où enfin le prophète arrive au sentier, il arrive à le rattraper et il le reconnaît. Ubay ibn Khalaf. Il le reconnaît. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine, inshallah wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.